À voix nue. Cette semaine, Amandine Casadamon rencontre Philippe Bouvard. Ce soir, l'homme des spectacles. Ce soir, cinquième et dernier acte avec Philippe Bouvard, figure médiatique et populaire, joueur invétéré, boulémique de travail. À 89 ans, il galope toujours et nous ne sommes pas à l'abri d'un 66e livre et d'une nouvelle émission. Et peut-être même sur France Culture. Hier, nous avons joué, aujourd'hui, nous continuons de jouer, mais cette fois-ci, nous laissons de côté le joueur de casino pour nous concentrer sur l'homme de bonne et mauvaise plaisanterie, enclin au fou rire. Philippe Bouvard, vous avez créé et animé des émissions de radio et de télévision destinée à faire rire et à promouvoir des comédiens que vous avez portés sur scène lorsque vous dirigiez le Bobino, salle de spectacle parisienne entre 1990 et 2006. Vos interviews sont rarement dénuées d'une touche d'humour et d'ironie. Certains disent de vous que vous êtes un moqueur et un adepte de la boutade et de la contrepétrie. Beaucoup vous connaissent pour avoir dirigé et animé pendant 37 ans Les Grosses Têtes, célèbre émission de radio construite comme une comédie, avec des personnages truculents qui n'ont d'autre objectif que de faire rire. Vous êtes champion en titre du divertissement culturel. Philippe Bouvard, bonsoir.
Bonsoir.
Je vais commencer par vous demander de vider vos poches.
Oh oui, oui, oh, je demandais aux gens de vider leurs sacs, de vider leurs poches, mais c'était, parce que parfois c'est révélateur, surtout pour les dames, les messieurs ont moins d'objets intimes à montrer, et oui, je mettais les gens à nu, mais en leur permettant de conserver leurs vêtements. Alors, je voudrais dire, parce que c'est vrai que j'aime bien la plaisanterie, que la télévision m'a donné le loisir, la possibilité de faire financer par le contribuable, mes plaisanteries. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 années, j'ai monté des sketchs avec la caméra cachée. Alors il y avait parallèlement une caméra invisible avec de grandes réussites et je crois que c'était Jacques Legras qui l'animait. Moi je construisais des petits scénarii et ensuite j'attendais de voir ce que ça donnait. Alors je vais vous en citer quelques-uns parce que c'est quand même un de mes meilleurs souvenirs. Alors par exemple, j'avais imaginé que je tenais un stand à la foire du trône. J'avais loué une roulotte, j'avais installé une comédienne que j'avais déguisée en gitane et j'avais mis à la porte de la roulotte un panneau où j'avais calligraphié « Confituromancie ». Alors, il s'agissait de prévoir l'avenir, ça, dans toutes les foires du trône, c'était une des principales attractions. Les braves gens entraient gratuitement, parce que je les faisais pas payer quand même, hein. Ils mettaient la main dans la bassine de confiture, ils la posaient après sur une feuille blanche, et la fausse gitane regardait la feuille, et selon ce qu'elle lisait, elle prédisait l'avenir. Et alors je voyais ces pauvres gens qui ressortaient avec les mains dégoulinantes de confiture, mais ravis parce qu'on leur avait dit qu'ils allaient avoir une vie merveilleuse. Et j'avais un peu honte. Mais j'ai souvent eu honte d'abuser de la crédulité des gens. Hein, mais je suis pas le seul, hein, les gouvernants aussi. Alors après, j'avais eu une autre idée. J'avais pris ma comédienne que j'avais déguisée en fille des rues, comme on disait à l'époque, que j'avais placée à Paris dans un quartier chaud. Et puis j'avais un comédien improvisateur qui s'appelait Jean Herbert et qui est devenu plus tard connu sous le nom de Popek. Et Jean Herbert s'était travesti en vieux monsieur à moitié aveugle. Le scénario consistait à ce qu'il arrête des braves gens dans la rue et qu'il leur dise qu'il voyait pas bien, qu'il avait rendez-vous avec une étaillire, comme je disais sans être toujours compris, et que on le guide vers cette fille avec laquelle il avait rendez-vous. Alors, ça avait fonctionné merveilleusement. Il y avait une brave femme qui était en train de promener son chien. Et elle dit, elle est juste là, si vous voulez. Alors, il disait, j'entends pas bien non plus. Est-ce que vous pourriez nous servir d'interprète? Et la brave femme au chien avait également servi d'interprète. Alors, elle lui avait dit, demandez-lui combien elle prend. Alors, c'était, le monsieur demande combien vous allez lui prendre. Et puis après, le Popek disait, et demandez-lui pour ce prix-là ce qu'elle peut me faire. Alors, la brave femme disait, le monsieur voudrait savoir quelles sont vos spécialités. Enfin, ça se terminait de façon absolument incroyable. Bon, nous sommes d'accord, disait le vieux monsieur. Nous allons aller à l'hôtel juste en face. Pourquoi vous viendriez pas avec nous? Et elle avait cette réponse. Elle disait, écoutez, c'est pas de refus, mais j'ai le chien. Ah, qu'est-ce que je me suis amusé avec ça.
Oui, je vois ça. Vous avez l'œil qui pétille quand vous les racontez.
Ah oui. Ah, la femme disant, je viendrai bien, mais il y a le chien. Oh là 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 là.
Il y en a que vous regrettez, des blagues, Philippe Bouvard? Vous êtes dit, là, je suis allé quand même un petit peu fort.
Oui, parce qu'on a dû faire des blagues de plus mauvais goût qui ont mis en péril ou qui ont gêné des gens qui n'étaient pas armés pour se défendre. Oui, bien sûr. De toute façon, tout ce que font les médias profite de l'état de faiblesse d'une partie de ceux auxquels ils s'adressent. Il y a d'un côté les forts, auxquels ils font la révérence, et de l'autre côté, il y a les faibles avec lesquels ils s'abusent.
Quelle place a le rire dans votre quotidien, dans votre existence?
Beaucoup, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais des fous rires, c'est une espèce de spasme qui m'agite, et on m'a souvent mis en boîte pour ça, comme un sac de noix qui tressaute sur son siège. On m'appelait le sac de noix. Mais c'était un vrai rire, je me forçais pas, hein. Oh oui. Et souvent, ce rire me saisissait à des moments totalement incongrus. Aujourd'hui, l'époque est devenue plus grave, je suis plus vieux, je ris moins et je le regrette.
En direct, vous avez déjà eu des fous rires lors d'une émission de radio ou de télévision, un fou rire incontrôlé?
Bien sûr, mais je savais que le fou rire à la radio ou à la télé en direct était finalement incitatif. Se dire que rien n'est plus communicatif que le rire. Pensez au disque de rire qu'avait fait Henri Salvador, qui ne disait absolument rien, et on se tenait les côtes en l'écoutant rigoler.
De quoi ne riez-vous pas, Philippe Bouvard?
Je ne ris pas de l'enfance malheureuse, je ne ris pas des animaux maltraités, j'ai une sensibilité qu'on pourrait qualifier de midinette si ce mot n'était pas sorti du vocabulaire.
D'ailleurs, vous parlez d'animaux, je crois que vous avez un nouveau compagnon.
Oui.
Qui est un chien qu'on aurait bien aimé voir, mais qu'on n'a pas eu la chance de voir, puisqu'il est resté à Cannes.
Il est à Cannes. On m'a offert pour mon dernier anniversaire, il y a un an, un gentil petit chien, très beau, très intelligent, qui dort avec moi toutes les nuits et qui le matin me réveille toujours à la même heure et qui fait un tas de choses et notamment qui, sans qu'on l'ait vraiment appris, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait découvert tout seul, quand le déjeuner approche, s'en va sonner la cloche. cloche qui rameute les participants du déjeuner.
C'est lui-même qui sonne la cloche ?
C'est lui qui sonne la cloche. Oui, oui, il la prend dans sa gueule, il remue la tête et on sait que le repas va être servi.
Une des caractéristiques des chiens, c'est quand même d'être extrêmement gourmand.
Oui, alors bon, j'entretiens nos bonnes relations avec des petits morceaux de brioche. Il y a tout un rituel le matin, parce que bon, il se lève avant moi parce que il va faire ses petits besoins, il est très propre. Et puis après, il revient me chercher, nous descendons ensemble, nous prenons le petit déjeuner ensemble. Il sait que après chaque tartine, il y aura un petit morceau pour lui. Et je l'ai appelé sans aucune imagination. Toutou.
J'aimerais revenir, Philippe Bouvard, sur le Bobino, la salle de spectacle que vous avez dirigée.
Alors, l'achat et l'exploitation de Bobino ne constituent pas ma plus grande réussite.
Ah.
Mais c'est la réalisation d'un rêve. J'avais des rêves d'enfant que il m'a été donné de pouvoir réaliser. D'abord, c'était d'avoir une bibliothèque plus haute que moi. Et lorsque j'habitais rue Saint-Ferdinand, j'avais dans mon bureau 8000 livres et une échelle pour les attraper parce que ma taille ne me permettait pas d'aller sur les derniers rayons. Donc, c'est un rêve que j'ai réalisé. Après, il y a eu le rêve d'être journaliste, je l'ai été et je le suis encore. Et puis, il y avait le rêve de posséder un établissement de spectacle à moi. Alors, Bobino était à vendre. D'abord, acheté le fonds de commerce, puis j'ai acheté les murs. Et puis, j'ai essayé alors de donner leur chance à des nouveaux humoristes, à des nouveaux comiques. C'était plus ou moins réussi parce qu'il en est des comiques comme des vins. Il y a les bonnes et les mauvaises années et il n'y avait pas que de grands crus. Et puis, parce que finalement, j'étais un chef d'entreprise inexpérimenté et plein d'idées préconçues fausses. Par exemple, bon, je fais une bêtise crasse. Lorsque j'ai pris possession de cette salle, j'ai été frappé par le fait que à l'orchestre et au balcon, il y avait un bar de 25 mètres de long. Ça faisait 50 mètres de bar. Alors je me suis dit, ça doit être la principale activité de l'établissement. J'ai donc embauché un chef barman et deux adjoints. Et puis, comme le public était extrêmement modeste et n'avait même pas de quoi laisser à un vestiaire, ils venaient avec la bouteille d'eau minérale dans un sac à dos et on les voyait jamais au bar. Donc j'avais un chef barman et deux adjoints qui se tournaient les pouces. Et j'ai fait comme ça un tas de bêtises, comme on en fait d'ailleurs quand on connaît pas une activité. Mais certains soirs, quand le public était nombreux, parce que j'avais aussi de bons spectacles, je me souviens que j'ai gardé Anne Roumanoff un an et demi ou deux ans et qu'elle faisait ça le comble. Je voyais les gens rire, je pensais que j'avais créé et maintenu des emplois, que les gens qui allaient ressortir auraient oublié une partie de leur tracas et que j'avais été pour une fois dans ma vie utile à quelque chose, au lieu d'être seulement utile à moi-même. Et je n'étais pas mécontent.
Et vous faisiez passer aussi des auditions, Philippe Bouvard, dans ce Bobino ?
Oui, les auditions, j'en ai fait passer très souvent. D'abord pour le théâtre de Bouvard, où c'était ouvert tous les matins. Et ensuite, pour Bobino, où j'essayais de trouver le mouton à 5 pattes. Mais j'ai rarement été au-delà de 3 pattes.
Et on va quand même parler des Grosses Têtes, cette émission incontournable que vous avez animée pendant 37 ans, si je ne dis pas de bêtises. Comment est née l'émission ?
Alors l'émission est née d'une idée qu'on a reprise, qui avait été exploitée il y a très longtemps par un humoriste nommé Robert Beauvais, et qui était une, selon sa définition, une émission de conversation entre gens cultivés. C'est une émission dont aurait pu parler à l'époque et pendant un certain temps, avant qu'elle devienne plus gaillarde, France Culture. Et donc la première a eu lieu sans public, ce qui était une erreur parce que le comique est comme le joueur de plot basque. Il a besoin d'un fronton, d'un mur pour renvoyer la balle. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de réaction et le comique retombe. Très vite, ça a marché parce que j'ai pris des gens de grands talents comme Jacques Martin, comme Bernard Mabille, comme Jacques Maillot. En fait, j'avais constitué une équipe où chacun avait son rôle, une espèce de petite famille, et d'ailleurs qui fonctionnait dans un climat d'amitié. Et je pense que ça permettait de se mettre en boîte sans se fâcher et d'assigner à chacun sa place. Et puis, je dois avouer que j'ai été un patron très directif, que je ne disais pas aux gens « tenez, voici les clés et faites ce que vous voulez ». Je contrôlais tout. Donc, quand on se trompait, c'était moi. Et quand ça marchait, ma modestie me poussait à l'oublier un peu.
Vous avez beaucoup écrit, Philippe Bouvard, sur la mort, et notamment sur votre propre mort, que vous avez souvent anticipée dans vos livres. Pourquoi ? Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous vous y préparez ? Pourquoi vouloir anticiper sa propre mort ?
Alors, pendant des décennies, par superstition, je n'ai pas parlé de la mort. De la même façon que toujours par superstition, alors que je viens d'entrer dans ma 90e année, je n'ai jamais rédigé de testament. Je préfère oublier cette seule certitude de la vie. Mais à un certain moment, je me suis dit, c'est quand même un bon sujet. Et donc, j'ai commis plusieurs petits livres qui, au départ, n'ont pas suscité l'enthousiasme des éditeurs qui disaient « c'est un mauvais sujet, vous savez, les gens vont avoir peur et puis c'est pas très rigolo ». Et puis ça a très très bien marché, hein. Il y en avait un qui s'intitulait, alors c'était le titre le plus long de l'édition française depuis longtemps, « Les morts seraient moins tristes s'ils savaient qu'en regardant les vivants, ils se tiendront encore les côtes. » Là, parce que j'avais beaucoup écrit sur la vie, j'avais presque épuisé le sujet. Il fallait que je parle de ce que je connaissais pas, mais de ce que je pouvais imaginer, puisque les autres le connaissaient pas plus que moi.
Si vous deviez mourir demain, à quoi occuperiez-vous votre dernier jour, Philippe Bouvard ?
Ah oui, je me suis souvent posé la question. Ça dépend du degré de lucidité que j'aurai encore. J'essaierai de voir mes proches si je peux encore les voir. Peut-être que je ferai un bon repas et que je mangerai des choses que d'habitude je digère pas.
Et si vous faisiez naufrage sur une île déserte?
Ah, si j'étais sur une île déserte, je créerais un journal. Et si vraiment l'île était déserte, ça serait un journal pour les singes et les hannetons.
Est-ce que vous êtes capable de vous fâcher avec quelqu'un qui a un bon contrat pour vous ? Ou est-ce que vous êtes un excellent diplomate ?
Non, je suis pas diplomate. Je suis vénal. Et donc, les gens qui font l'effort de me donner ce dont j'ai besoin, je les vois d'un meilleur œil et je tolère des choses que je ne tolérerais pas de la part de gens qui ne me font aucun cadeau. Non, je travaille pour vivre, j'ai toujours travaillé honnêtement, tout en regrettant que, en dépit d'une corruption générale et nonobstant la petite influence que je croyais avoir dans certains médias, on ne me propose jamais une enveloppe.
Est-ce qu'il y a un trait de caractère que les années ont effacé chez vous ?
Alors, les traits de caractère qui n'étaient pas tous de bonne compagnie, oui, on en perd certains en perdant sa jeunesse. Mais par exemple, J'ai toujours été impatient et je le suis toujours. Bon, je supporte peu d'attendre une minute alors que j'ai encore, et je l'espère, beaucoup d'heures devant moi. J'étais prêt à me fâcher avec mon meilleur ami pour un bon mot. Ça a un peu disparu parce que ça a disparu en même temps que les amis. Il m'en reste si peu que je les ménage. En plus, j'étais, comme on dit, un peu coureur. Bon, un peu coureur, et bien que pas très sportif, il m'est souvent arrivé de rattraper des personnes du sexe opposé. Là, je m'ai rendu sage, hein. Je cours plus du tout. Je marche un peu. Sans être devenu toutefois ce qu'on appelle un vieux marcheur, parce qu'aujourd'hui, les marcheurs, c'est devenu politique.
Qu'est-ce que vous appelez, vous, un vieux marcheur ?
Un vieux marcheur, c'était un vieillard tiré à quatre épingles, qui avait une perle à sa cravate. Je vous parle d'un autre temps et d'une autre façon de s'habiller et qui lorgnait les jeunes filles en continuant à penser qu'il était irrésistible.
Alors, vous disiez à l'instant que vous étiez coureur. Est-ce que vous êtes un sentimental, Philippe Bouvard ?
Oui, je crois que j'ai été un sentimental, oui, je crois que j'ai eu, comme tout le monde, mais de façon souvent assez violente, des chagrins d'amour, que, j'ai été sentimental. Tout en me méfiant, et je continue, des bons sentiments qui constituent le matériau préféré des politiciens et de certains intellos. Oui, je me méfie des bons sentiments. Les gens qui sont des moralistes, généralement, ont des vies dissolues.
Est-ce qu'il vous arrive de sortir de vos gonds ?
Oui, oh là là, j'étais coléreux, colérique. Oh là là, je me suis fâché, je supportais pas certaines phrases, certaines contradictions. Oui. Et je supportais surtout pas d'attendre. C'était frénétique.
C'est la patience dont vous parliez.
Oui, frénétique, hein. Alors que, et aujourd'hui, je passe mon temps à attendre des gens qui sont jamais à l'heure et qui s'excusent pas. J'en ai pris mon parti.
Heureusement qu'on était à l'heure, alors sinon on se serait fait passer un savon.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des ruptures de contrat qui vous ont affecté particulièrement ?
Il n'y a eu que les grosses têtes. Non, alors si je n'ai pas été souvent évincé d'une entreprise. Alors j'ai été évincé du centre de formation professionnelle des journalistes.
Quand vous étiez étudiant ?
Ça m'a fait un petit peu de peine parce que ça a compliqué, comme on dit aujourd'hui, la suite de ma recherche d'un premier boulot. J'ai été évincé de matchs après 20 ans de grand bonheur, mais bon, c'était un peu normal, j'avais tout donné, et puis 20 ans de collaboration hebdomadaire, dans un grand hebdomadaire, on n'a pas lieu de se plaindre. J'ai été évincé après, et ça m'a fait plus de peine, d'un grand régional auquel je collaborais comme billettiste quotidien, et à l'enseigne de Nice Matin. Au bout de 14 ans, sans d'ailleurs que j'ai eu aucune explication, sans que j'ai rencontré le moindre patron, sans que j'ai eu le plus petit vin d'honneur, alors que pendant 14 ans, je crois que j'avais très bien fait mon métier et que j'avais su nouer avec les lecteurs des rapports privilégiés. Quand je descendais faire mes courses à Cannes le matin, il y avait à tous les feux rouges des gens qui me disaient « Ah, on est d'accord avec vous », ce qui est le plus beau compliment qu'on puisse faire dire à un journaliste, on vous lit tous les matins, ça c'était le bonheur. Ah ben ce bonheur, il s'est arrêté au bout de 14 ans et alors que je me croyais intouchable.
Les rapports ont peut-être changé aussi entre employeurs, employés. Maintenant, on se débarrasse peut-être plus facilement des gens sans explication. C'est quelque chose qui aurait été imaginable il y a 20, 30 ans, Philippe Bouvard ?
Oui, peut-être qu'aujourd'hui, on se débarrasse des gens plus facilement. Mais avec quand même certains égards nouveaux, avec parfois, ce qui n'était pas mon cas, des petites indemnités. Alors ça, on essaie de mettre les formes, hein, comme dans les chaussures qui font mal aux pieds.
Est-ce qu'il y a quelque chose sur dont vous aimeriez nous parler, quelque chose sur lequel vous aimeriez conclure en particulier ? Voilà, vous êtes libre de conclure.
Eh bien, je voudrais vous dire mon angoisse de vivre dans le monde tel qu'il se présente à nos yeux et à nos oreilles aujourd'hui. Je suis effaré. Nous avions tout fait depuis ma naissance pour rendre la vie plus simple, plus facile, plus joyeuse, plus confortable aussi. J'ai assisté pendant près de 90 ans à tous les progrès. Donc je pensais que on allait vers une espèce de paradis sur terre, et c'est devenu l'enfer. Et c'est quelque chose qui m'effraie pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je me demande comment ils vont s'en tirer. Vous voyez, j'ai fait l'autre jour une chronique où je développais cette idée dans le Figaro magazine en disant: on va être conduit un jour à remplacer le vivre ensemble par le vivre ailleurs. C'est-à-dire que la Terre sera devenue tellement invivable qu'il faudra aller s'installer dans le cosmos. Je trouve que nous avons tout gâché, et je parle pas seulement sur le plan climatique, parce que je connais rien à l'écologie, et puis le fait que l'État mettait dans sa poche la plupart des taxes qu'on collectait en son nom a refroidi mon enthousiasme. Mais je pense que aujourd'hui on est à un point de non-retour et qu'on a sec le monde et nos vies.
Philippe Bouvard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à bientôt.
Et à bientôt, j'espère. Et merci de m'avoir invité, accepté sur une radio de qualité où jusqu'à présent je n'avais jamais mis la langue.
Fin de cette rencontre d'Amandine Casadamon avec Philippe Bouvard. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Georges Thaud, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.